Et Blaise van der Linden s'est entretenu avec Daniel Haber et ils ont analysé ensemble la situation géopolitique du moment, notamment comment faire le tri entre l'opération militaire et la diplomatie. Voici l'avis de Daniel Haber.
Bonjour Daniel Haber.
Bonjour Blaise et bonjour chers amis.
Comme chaque lundi matin, nous conversons autour de la géopolitique mondiale. Alors, on va commencer tout de suite, Daniel Haber. Comment faire le tri entre l'opération militaire et la diplomatie depuis l'attaque terroriste du Hamas depuis le 7 octobre?
Écoutez, depuis le début, on voit que y a un mélange des deux, que les Américains soutiennent Israël, mais leur demande de faire un certain nombre de choses. Mais pour répondre brièvement, on pourrait dire que en ce qui concerne Gaza, on est plutôt dans les opérations militaires et au fond, aucune diplomatie aujourd'hui autre que humanitaire n'intervient à Gaza. Donc là, on est vraiment dans la guerre, si vous voulez. Alors que tout le reste, c'est-à-dire l'escalade au nord et puis au sud avec ce qui se passe en mer Rouge. Là, la diplomatie est à l'œuvre et pour se faire entendre, les diplomates souvent appuient leur proposition diplomatique par un certain nombre d'actes militaires pour montrer qu'ils sont sérieux. Autrement dit, tout récemment, il y a eu un bombardement des Houthis chez eux-mêmes, hein, au Yémen. Bon, c'est une forme de négociation parce que le bombardement a été limité. C'est donc un avertissement. C'est une négociation qui est ponctuée d'un acte militaire en disant voilà ce qui peut vous arriver. Maintenant, si vous voulez continuer, c'est ça qui va vous arriver. Donc on est quand même dans la négociation alors que ça a l'apparence d'une opération militaire. Voilà un petit. Alors si je voulais répondre un tout petit peu plus sur Gaza, je crois que sur Gaza aujourd'hui, c'est clair qu'on est passé à la phase qui était longtemps attendue par les Américains, qui est la phase où il y a beaucoup moins de bombardements. Beaucoup plus d'opérations terrestres ciblées. Il y a moins d'informations qui sont fournies par Tsahal, donc ça veut dire que là, on rentre dans le dur. On est peut-être proche du dénouement, d'ailleurs, c'est-à-dire de capture des hauts dirigeants du Hamas. C'est pour ça qu'on parle à nouveau des otages, parce que pour les dirigeants du Hamas, les otages, ça va être leur garantie de survie potentiel. Et puis, on a toujours ces soldats morts israéliens dont on voit le visage sur un certain nombre de chaînes israéliennes et qui brisent le cœur des Israéliens. Donc, les Israéliens sont dans la peine, hein, mais ça, c'est la guerre de Gaza. Pour l'escalade, on voit que au nord, non seulement le Hezbollah est actif, mais même le Hamas est au Liban. Il y a des milices syriennes et irakiennes pro-iraniennes qui tentent des opérations. Donc il y a de l'agitation, mais là aussi, on voit bien que la vraie négociation, c'est avec l'Iran. C'est l'Iran qui dose les attaques. Et là, il faut le relier avec le deuxième front, qui est le front du Sud, le front de la mer Rouge. Là, Israël, au fond, se défausse sur les Américains et sur les Occidentaux en disant que ce n'est pas un problème purement israélien, c'est un problème de liberté de navigation. Et là, on voit bien que c'est un problème qui va se régler assez vite parce que c'est intolérable pour la communauté internationale de laisser faire parce que ça alimente l'inflation mondiale, donc on est quand même dans un problème global. Puis il faut jamais oublier ce qui se passe en Judée-Samarie. Il y a toujours eu une intifada depuis une bonne année à bas bruit, et là chaque jour la police et l'armée arrêtent des attentats. Il se passe beaucoup de choses en Cisjordanie ou en Judée-Samarie, dans la mesure où c'est probablement le point de repli du Hamas. S'ils quittent Gaza, il faut trouver une base, et la base, ça sera là-bas. Donc voilà un peu où on en est dans les opérations militaires pour répondre à votre question, et dans la diplomatie.
Anthony Blinken, Amos Hochstein se sont rendus en Israël. Du point de vue des Occidentaux, on joue l'apaisement?
Oui, je crois que vraiment la position américaine c'est pas le moment d'avoir une guerre régionale. Voilà, hein. Gaza, bon, c'est fait, on vous laisse faire, on vous a demandé de passer à une phase moins visible, c'est le cas, donc merci. Comment éviter de nous laisser embarquer? Parce que quand même, pour les Américains, ils ont compris que l'intérêt d'Israël, c'est de s'en prendre au Hezbollah, parce que si c'était pas le cas, on va régler le problème du Hamas dans les au cours de dans les prochains jours peut-être, et puis après il faudra toute une année pour établir une garantie qu'à Gaza on retrouvera pas d'autres militants qui remettraient en question la tranquillité de la frontière sud. Mais pour Israël, le vrai danger c'est le Hezbollah, c'est le nord, et donc ça serait le moment, eux qui sont complètement mobilisés aujourd'hui, qui sont chauds, je dirais, et ça serait le moment de détruire le Hezbollah, et voire même entraîner les Américains dans des bombardements des sites nucléaires iraniens, parce que ça reste toujours dans le fond de la tête des militaires israéliens. Le vrai danger, c'est l'Iran et la bombe. Il faut jamais l'oublier. Et d'ailleurs, tout ce que fait l'Iran, c'est pour se faire oublier tout ça. Donc c'est ça la négociation au fond, et elle est probablement secrète. C'est comment faire pour ne pas, pour que les Américains au fond se laissent pas entraîner dans une guerre qu'il serait obligé de faire alors qu'on est en année électorale. En gros, c'est un peu ça ce qui se passe.
On a parlé dans les conversations de ce fameux acte, ce tripartite, la Russie, la Chine et l'Iran. On a l'impression que la Russie et la Chine se sont un petit peu retirés de l'Iran. Quelle est leur position à la Russie et la Chine dans ce conflit?
Et cette coalition apparente de Russie, Chine plus Iran, elle avait du sens sur la guerre en Ukraine. Là, il y avait du sens parce que l'Iran fournissait des armes, recevait des armes de la Russie. La Chine rachète le pétrole russe, rachète le pétrole iranien. Donc, il y avait une coalition qui avait du sens. Sur la guerre au Moyen-Orient, c'est moins clair. La Russie fait des déclarations, mais elle a autre chose à faire. Elle reste sur son conflit. L'Iran, c'est évidemment le grand opérateur de la guerre au Moyen-Orient. Donc voilà. Et je vois que la Chine, en fait, sa pire crainte, c'est d'être entraînée dans le moindre début de commencement de conflit. Et on le voit en mer Rouge, où ils n'ont pas du tout envie de recevoir un roquette par hasard sur un bateau marchand chinois. C'est qu'ils ont une très grosse compagnie qui s'appelle COSCO, qui est très active dans la mer Rouge, qui passe le canal de Suez, qui livre beaucoup de produits chinois à l'Europe, hein, surtout par le canal de Suez. Ils ont depuis longtemps préféré faire le tour de l'Afrique en disant bah, les clients paieront, parce qu'ils veulent pas prendre le risque d'un roquette perdu et qui les laisserait finalement, qui les un tout petit peu se mêler de cette guerre qui n'est pas du tout la leur. Donc ils ont une peur, au fond, ils ont une peur panique d'être entraînés dans cette guerre. Mais alors ça veut dire surtout que d'une certaine manière, ils se retirent du Moyen-Orient sur le plan diplomatique. Ils disent, moi, j'ai rien à dire, c'est pas ma guerre. Rappelez-moi quand on sera au moment de la paix. Ouais, je veux bien participer à la paix. Mais ça sera plus difficile pour les Chinois de participer à la paix si l'on pas participé aux opérations militaires. En fait, un peu comme tout le monde, il laisse les Américains faire le boulot de mettre les outils devant leurs responsabilités. Ils les critiqueront. Déjà, on a vu les Russes et les Chinois dénoncer l'agression américaine contre les Houthis. Ce sont vraiment des déclarations qui n'ont aucun sens, qui sont tellement bêtes que tout le monde rit autour de ça. Mais donc finalement, pour la Chine, ce qui se passe au Moyen-Orient n'est pas une bonne opération. Elle est de l'instabilité dans une zone qu'elle voudrait stable, et elle n'a pas voix au chapitre. Voilà ce qu'on peut dire sur la Russie et la Chine.
Revenons à l'état hébreu pour conclure. Daniel Aber, où va-t-on à Gaza? On s'attend à une escalade?
Écoutez, donc sur Gaza, je crois que le fait que Tsahal communique beaucoup moins qu'avant, je pense, montre qu'on est peut-être pas loin d'une forme de dénouement. Il faudra bien trouver une solution à la fois pour les otages et pour les dirigeants, et leur fuite éventuelle, ou leur extradition, ou leur extrapolation vers l'Algérie ou vers le Qatar, on ne sait pas trop. Donc il risque d'avoir ça. Mais ça ne veut pas dire que les Israéliens en auront terminé avec Gaza. Il faut toute une année aujourd'hui pour briser toutes les infrastructures, hein, les tunnels. On commence commence à les regarder de près. Il faut pas que ça revienne, etc. Donc il faudra une bonne année. Et donc voilà, on est et puis un élément quand même très important parce qu'on en parle moins, c'est parce que l'aide humanitaire continue à rentrer. Elle a beaucoup augmenté. Donc on peut plus faire l'étalage de la détresse des Gazaouis. Ils reçoivent de l'eau, ils reçoivent de la nourriture, ils reçoivent suffisamment de fuel. Donc et d'ailleurs on en entend beaucoup moins parler, hein. Donc ça veut dire que Gaza, elle est sur des voies assez claires sur l'escalade, et ça serait la conclusion. La balle est dans les mains de l'Iran. C'est à l'Iran de décider s'ils veulent engager un combat maintenant. Je pense les diplomaties pensent qu'elle n'est pas prête à le faire, et elle, au fond, elle peut se contenter d'être un élément de nuisance pendant toute l'année 2024. Tout ce qui est fait pour ennuyer l'Occident, pour faire monter les prix, pour diviser l'Occident, parce que l'Occident se divise entre pays et à l'intérieur de chaque pays, entre les camps qui sont pour et pour truc. Tout ça arrange les affaires de l'Iran, de diviser ses ennemis. Et donc, on peut imaginer que ces pressions vers l'escalade vont continuer, et que les Occidentaux, parce que c'est l'année électorale et qu'ils n'ont pas envie de commencer une guerre, parce qu'on sait comment ça commence, on sait jamais comment ça finit, vont accepter des formes de patience, d'acceptation de choses qui sont inacceptables pour ne pas avoir le pire. Donc c'est une année 2024 qui s'annonce assez compliquée, probablement pas une grande guerre régionale ni mondiale, mais des ennuis à répétition qui vont un petit peu polluer le débat et qui vont nous rendre très très en colère comme chaque semaine un petit peu dans ce qui se passe dans le monde.
Une année 2024 que nous décortiquerons, Daniel Habert, chaque lundi matin à 7h15 sur Radio Judaïka. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on se retrouve la semaine prochaine.
À bientôt, au revoir.